simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
À toi de jouer. Je te rappelle que c'est toi la speakerine officielle de l'Egrégor et que donc c'est toi qui est censé ouvrir ces émissions à chaque fois.
Bon, donc ce soir, nous allons parler d'antifascisme.
Alors oui, on va plutôt parler de la lutte contre l'extrême droite et de la lutte contre le fascisme. En effet, vous êtes pas sans savoir, enfin normalement, hein, depuis une semaine se déchaîne un racisme médiatique et réel, hein, et pas que supposé, sur les notamment la télévision. À l'occasion de l'élection du maire de Saint-Denis, Baliba Gayoko, hein, où on se remémore, on a l'impression de se retrouver dans les années 80 ou dans le café du commerce, où alors là, vraiment, on lâche les chevaux, hein, puisque on passe de comparaison avec les grands singes, en parlant par chef de tribu, en inventant des termes qu'auraient été employés, en se demandant si l'édile de Seine-Saint-Denis est dans la main des dealers et du narcotrafic local, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, ce qui démontre d'ailleurs que le racisme, c'est vraiment quelque chose de structurel, puisque on a des gens. Alors, pour la partie CNews, Europe 1, Bolloré, on va pas se douter qu'ils sont racistes, mais on a des journalistes qui se permettent de poser des questions et qui se rendent même pas compte que ce sont des remarques, ou des réflexions qui dénotent d'un racisme profond, et
complètement.
S'ils le comprennent pas, c'est même pas la peine de discuter avec eux, hein, et voilà. Alors, ça faisait déjà un petit moment qu'on voulait essayer d'entamer une réflexion là-dessus, parce que il y a énormément de choses à dire, hein, et la semaine dernière, j'ai eu l'occasion avec d'autres camarades de m'entretenir avec un membre de la Horde, qui est donc un collectif antifasciste qui existe depuis 2012 et qui est un collectif qui est issu d'un certain antifascisme, un antifascisme qu'on a pu qualifier de radical ou d'autonome, en tous les cas qui est dans une continuité historique par rapport à ces formes-là. On a pu s'entretenir avec lui pendant 2 heures, on en a isolé environ 1h30, 1h20 qu'on va vous diffuser en 2 fois, une première partie ce soir et puis une seconde partie la semaine prochaine. Le fait de le découper en deux, ça va nous permettre aussi, nous, de revenir sur quelques trucs, parce que, ben, évidemment, en 2 heures, on peut pas tout aborder, et en plus on n'avait pas envie de rentrer dans une discussion ni de super militant ni de spécialiste et de couper les cheveux en quatre. On avait d'abord envie de développer déjà les principales thématiques, et puis après, quitte à y revenir dessus, même si le camarade pourra pas se défendre, mais c'est pas un procès qu'on va lui faire, hein, évidemment, mais on aura l'occasion quand même de pointer, nous, ce qui nous dérange et ce qui nous dérange. Les points sur lesquels on peut avoir des désaccords. Voilà, pour être tout à fait clair. Donc, la première partie dure 40 minutes. Elle a été enregistrée à Paris. J'espère que ça a fonctionné. Normalement, ça devrait le faire puisque on a bien travaillé ce week-end. Mais bon, voilà, je me tais pour lancer le son et on se retrouve dans 40 minutes.
Plutôt, on va commencer par les années 80.
Donc, bonjour déjà à toutes les auditrices, les auditeurs de l'Actu des Luttes. La Horde est donc un collectif antifasciste, mais un peu particulier, parce que c'est plutôt qu'un... C'est pas un collectif de lutte en tant que tel, mais plutôt une boîte à outils pour la lutte antifasciste. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Les groupes qui font vraiment le travail, c'est les groupes locaux, les groupes antifascistes locaux, dont nous ne sommes pas. Donc, nous, on n'est pas implantés quelque part. Et d'ailleurs, qui compose le collectif, il y a des gens de différents endroits. Il y a des gens de la région parisienne, mais il y a des gens de Picardie, il y a des gens de Vendée, voilà, il y a des gens pas de partout, mais on est et avec surtout des réalités différentes. Il n'y a pas que des urbains, il y a des gens qui vivent à la campagne aussi. Et tout ça, c'est utile pour le collectif. Il y a des gens aussi de tous les âges, de toutes les générations. Et ça, c'est une bonne chose parce que il faut qu'on puisse développer des outils qui parlent et qui soient utiles à toutes sortes de groupes antifascistes. Alors, je précise quand même que l'antifascisme dont on se réclame, c'est ce qu'on appelle, nous, l'antifascisme autonome, c'est-à-dire des groupes qui développent un antifascisme, mais en dehors des partis, en dehors de la politique politicienne. Et ça, c'est la première chose. Et puis, historiquement, oui, on pourra peut-être en parler un peu, mais c'est apparu parce que les deux principaux réseaux antifascistes qui ont traversé les années 90 et 2000, c'est-à-dire le réseau No Passaran d'une part pour l'antifascisme autonome et puis le réseau Ralfront pour l'antifascisme plus républicain entre guillemets, ces deux réseaux ont cessé leur activité vers la fin des années 2000. Et donc, il y avait un espèce de vide pour les gens et pour les groupes aussi. Alors, il y a un vide que nous, on ne comble pas, c'est-à-dire celui d'être coordonné, de s'organiser collectivement, d'être en réseau. Bon, ça, nous, on ne joue pas ce rôle-là. Par contre, un autre aspect qui existait au sein de ces réseaux, c'est le fait d'avoir une centralisation de l'information, par exemple à travers des journaux à l'époque, parce que c'était un peu avant Internet. Et puis, donc une centralisation de l'information et surtout des agendas. Alors certes, il y a le réseau Mutu, certes, il y avait Démosphère à l'époque, et puis encore Windy Media. Il y a aussi des réseaux forcément d'information militante, mais qui traitaient d'un peu tout. Et sur la question antifasciste, pour quelqu'un qui voulait savoir un petit peu ce qui se passait dans le pays, il n'y avait plus d'endroit vers qui se tourner. Et puis pour le matériel, c'était la même chose. Il y a une partie de notre activité qui nous prend beaucoup de temps. C'était pas notre projet au départ, mais qui nous prend beaucoup de temps, c'est la diffusion d'autocollants antifascistes. Ça a pris une importance vraiment dans notre activité qu'on ne pensait pas au départ, parce que tout simplement, aujourd'hui, les individus qui veulent, et c'est souvent des gens qui sont en milieu rural ou périurbain ou dans des petites villes, autour d'eux, il n'y a pas forcément de réseau militant, il y a encore moins de groupes antifascistes. Ils veulent quand même, ils voient bien que y a une volonté de marquer quand même aussi, même symboliquement, une présence antifasciste. Et les gens se tournent vers nous, tout simplement, parce que c'est pas possible. Enfin, en fait, il n'y a nulle part ailleurs où trouver ce type de matériel. Et dans la diffusion et la production de matériel plus pédagogique, donc on a fait beaucoup d'infographies. Pendant un temps, les gens nous connaissaient parce que chaque année, voire des fois plusieurs fois dans l'année, on faisait un schéma de l'extrême droite, qu'on fait toujours, mais qu'on met un jour un peu moins souvent. On a traduit un livre, on en a écrit un, et on a fait deux jeux de société qui ont eu leur petit moment de gloire. Ouais. Et tous ces outils-là, on les développe, nous, alors qu'ils devraient être, idéalement, ils devraient être développés au sein de réseau antifasciste, mais qui pour l'instant n'émerge pas.
Donc en fait, là, aujourd'hui en France, il n'y a pas de réseau, quelque chose qui regroupe l'ensemble des petits collectifs qui peuvent exister un peu partout, quoi.
Non, parce qu'il y a des coordinations régionales, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que les groupes antifascistes au sein d'une même région, par exemple, ne se rencontrent pas. Il y a aussi des rencontres hexagonales ponctuelles dans lesquels différents groupes qui sont en lien se retrouvent. Il y a eu, avant sa dissolution, une tentative de la part de la Jeune Garde de créer une organisation antifasciste. Bon, ça n'a pas marché. Et puis là, de toute façon, on ne saura jamais si ça marche ou pas, puisque la Jeune Garde n'existe plus en tant que telle. Mais sinon, sur le modèle un peu fédéral, on va dire, du réseau Nos Passaran, par exemple, ça, il y a pas de, c'est pas qu'il y a pas de volonté, mais il faudrait que l'impulsion vienne de quelque part. Hein. C'est toujours pareil. Il faudrait qu'à un moment donné, un groupe se sente un petit peu
les épaules,
l'envie. Et puis l'envie, voilà, de lancer ça. Alors, ça se fait périodiquement. Il y a des invitations, on se retrouve tous, etc. Mais on ne sait pas très bien, je pense, par quel bout prendre la chose. Et puis surtout, il y a des erreurs qu'on ne veut pas reproduire. De la même façon, pour ce qui est de l'antifascisme type Ralfron, il y a le site Riposte, qui est un site un petit peu comme... C'est un peu comme la Horde, c'est-à-dire sur lequel il y a un agenda, des articles, qui fournit aussi beaucoup d'outils. Et qui, eux, régulièrement, chaque année, en fait, organisent des espèces d'assises pour essayer de recréer un réseau, on va dire un peu plus institutionnel, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire plutôt de fédérer les syndicats, les partis, comme faisait Ralfron, en fin de compte, les associations. Et je trouve ça très bien parce qu'en fait, l'antifascisme, pendant longtemps, il a marché un petit peu sur ces deux pieds-là. C'est-à-dire un mouvement qu'on disait radical, un réseau autonome, c'était ça sa vraie marque de fabrique, et libertaire, avec une identité politique libertaire vraiment affirmée. Et de l'autre côté, le réseau Ralfron, donc qui était comme je l'ai décrit, et très souvent, localement, ces deux réseaux-là fonctionnaient à différents niveaux. Et je pense qu'il y a besoin que l'antifascisme n'appartient à personne. Il y a plusieurs façons de le pratiquer. Il y a aussi des points de vue différents. Par exemple, le rapport au Front National à l'époque était différent. Nous, on le voyait comme un parti républicain, pas comme les autres, mais intégré dans le système républicain, alors que l'analyse de Ralfron était de dire que non, le Front National n'était pas un parti républicain, qu'il était en dehors du champ démocratique, etc. Donc là-dessus, on n'était pas d'accord en termes de l'analyse, mais ça n'empêchait pas. Et donc ça changeait beaucoup de choses, par exemple, au moment des élections, où Ralfron, clairement, appelait à un front républicain pour faire barrage, etc. Là où le slogan de Nos Passaran, par exemple, c'était « Le problème n'est pas seulement que l'extrême droite arrive au pouvoir, mais que ses idées y soient et déjà, y compris portées par des mouvements dits républicains. » Donc, on avait nos petites différences, mais en réalité, pour ce qui était de la lutte contre l'extrême droite, c'était intéressant quand même qu'il y ait, ça puisse s'adresser aussi à des publics différents.
J'aimerais que tu, pour ceux qui ne connaissaient pas cette période, essayes de nous décrire, alors évidemment, un peu rapide, ce qu'il pouvait y avoir de spécifique à ces réseaux, à ces structures. Alors, peut-être prendre deux exemples. La revue Réflexe, qui était une revue d'analyse, d'information et de lutte contre l'extrême droite, c'était compris dans le nom. Le réseau Nos Passaran. Et puis, Ralfron, tu es venu. Alors, il y avait aussi le manifeste pour le Parti Socialiste, hein, puisque à un certain moment, le Parti Socialiste a été, en tous les cas, assez prétendu antifasciste. Mais on pourrait peut-être revenir là-dessus. Et je crois que, en tous les cas, une première remarque, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'il y avait une matérialisation. C'est-à-dire que, en l'occurrence, bon, Réflexe, c'était une revue connue pour ses qualités d'analyse, et le réseau Nos Passaran, c'était aussi des gens qui étaient adossés à la fois à un mouvement de contre-culture, donc des gens qu'on pouvait rencontrer, discuter, etc. Et quelque part, aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça qui manque un peu, c'est que les antifas, c'est un petit peu difficile de les gauler dans le mouvement social, quoi.
Oui.
Ouais.
Oui, alors on va peut-être pas faire l'histoire du réseau Nos Passaran, mais enfin très rapidement, peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout cette histoire. Là, je fais un petit peu d'auto-promo parce que ça sera plus simple aussi pour les auditrices et les auditeurs.
T'as raison, hein.
Donc, nous, à La Horde, on a écrit un livre qui s'appelle aux éditions Libertalia, qui est dans leur collection 10 questions, et qui s'appelle 10 questions sur l'antifascisme. Il est en téléchargement gratuit sur le site des éditions Libertalia. Et pourquoi je parle de ce bouquin ? Parce qu'il y a une petite partie, il y a un chapitre sur l'antifascisme contemporain, et donc il raconte quand même un peu au pas de charge aussi. Le livre sur le réseau No Passaran reste à faire. D'ailleurs, c'est un projet que nous aussi, on a en tête. Pour le faire simple, ce qui se passe au milieu des années 80, c'est la conjonction de plusieurs choses. Il y a d'abord l'émergence donc, de l'extrême droite institutionnelle avec le Front National qui perce le plafond de verre et devient un acteur politique reconnu, invité dans les médias, etc., et qui perce électoralement. Et il se trouve que ça arrive pile à un moment où, dans les milieux autonomes, dans les milieux de lutte, il y a toute une série de luttes qui sont un petit peu en bout de course. Les luttes antimilitaristes en particulier, un certain nombre de... Et c'est un peu la déprime à cette époque dans les milieux militants. Et, par exemple, à Toulouse, c'était un petit peu le cas. Et ils apprennent que le premier grand meeting de Le Pen doit se faire dans leur ville, qui est une ville historiquement avec des résistances très fortes. Là, il y avait pas, on pouvait s'engueuler sur beaucoup de choses, mais ce sur quoi tout le monde était d'accord, c'est que tout le monde détestait l'extrême droite. Ça, c'était simple. Il n'y avait pas de débat là-dessus sur est-ce qu'il faut s'opposer au meeting de Le Pen. C'était consensuel. C'était aussi un objectif, je veux dire, concret, facile à réaliser. Donc, il y a le lieu qui devait accueillir le meeting qui a sauté. Il y a une grande manifestation organisée pour la première fois sur cette question d'une extrême droite qui renaît, qui revient, qui n'est pas simplement groupusculaire, mais qui s'institutionnalise. Et donc, troisième élément qui va se télescoper avec tout ça, c'est le fait qu'il y ait effectivement, à l'époque, une scène contre-culturelle qui se politise. C'est la scène qu'on disait alternative à l'époque et qui regroupait toutes sortes de courants musicaux, mais principalement punk rock, reggae, oi, pour faire vite. Et qui était une scène très dynamique et surtout qui avait aussi des principes, pas simplement dans les paroles, mais aussi dans le fonctionnement, qui reposait sur l'autogestion, l'autodistribution, des choses comme ça. Et donc, cette conjonction d'un ennemi clairement identifié, d'une force politique un peu en bout de course et qui a besoin de repartir sur des bases et puis aussi de se reconnecter à des victoires, à quelque chose sur lequel on va gagner, et d'un mouvement contre-culturel aussi qui parlait à la jeunesse. Ça va.
Ouais, mais pour le milieu, dont tu parles culturel, il émergeait aussi dans les squats.
Aussi.
Et ça, c'est pour ça que tu le dis pas. C'est vachement important parce qu'il y avait vachement de squats à l'époque un peu partout, et c'était des lieux de politisation.
Et puis, il y avait tout un réseau de maisons des jeunes et de la culture où tous les samedis soirs, il pouvait y avoir de la musique à la fois du groupe local, des jeunes du coin, mais aussi de stars qui venaient. Et dans chaque concert, il y avait des tables de presse où tu venais et tu pouvais faire tes courses, ton marché, discuter avec des militants. J'ai même souvenir que tu avais encore des groupes militants qui même nous invitaient quand ils étaient dans des salles un petit peu plus institutionnelles, mais qui imposaient, ça faisait partie de la charte, d'avoir une table de presse. Aujourd'hui, tu vas dans un concert, tu as une appli et tu bouffes et tu te prends des bières à 24 balles. Et voilà. Donc c'était un ensemble. Hein.
Ouais,
et puis évidemment, comme tu l'as dit, c'était autogestionnaire. C'est-à-dire que si tu voulais faire ton concert, tu pouvais le faire, mais il fallait le faire de A jusqu'à Z. Mais en tous les cas, c'est ce qui permettait... l'existence de cette scène et donc en lien des superpositions, et il y a énormément de jeunes et de gens qui se sont approchés ou qui sont entrés dans la sphère politique comme ça. Sur la question de l'antiracisme aussi, c'est normal parce que quand t'as 12, 13, 14, 15 ans, ta première révolte, c'est ça, c'est de pas comprendre pourquoi ton pote d'à côté, pourquoi il faudrait le traiter, et puis les flics et les fascistes et puis les idées réactionnaires dans la société, elles te font chier aussi en tant que jeune, quoi. Pardon.
Non, mais tu fais bien de dire tout ça parce que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, puisque moi, je me suis politisé à la fin des années 80. C'était facile, c'était presque. Il y avait une espèce d'évidence. Enfin, il y avait vraiment rien de. T'étais pas original quand t'étais. que tu écoutais du punk et que tu t'engageais dans un groupe antifasciste. Ce qui était plus original, c'est d'y rester et de militer vraiment. Mais en tout cas, à ce moment-là, rejoindre cette lutte-là, c'était vraiment, je dis pas t'es un mouton, mais c'est presque tout le monde qui le faisait. Et puis, il faut pas, d'une façon un peu plus cynique aussi, il faut pas oublier que tu avais aussi une instrumentalisation de la lutte antifasciste au plus haut niveau de l'État, puisque à ce moment-là, c'était le PS qui était, tu avais Mitterrand qui était encore président, et on le sait bien, avec SOS Racisme, etc., il y avait aussi une volonté de récupérer toute cette colère légitime dont tu parles, que quand t'es adolescent, et de la canaliser et de l'encadrer. Et là où c'est intéressant, c'est que bien sûr, il y a eu ça, puisque SOS Racisme a prospéré à ce moment-là. Mais il y a eu aussi une jeunesse agitée, pour reprendre les mots des Bérus, qui a refusé ce cadre-là et qui a développé un antiracisme, un antifascisme, une lutte de résistance au discours inégalitaire, de façon autonome, et aussi qui très très vite, même dès le départ, s'est retrouvé en butte à la répression et a intégré dans son antifascisme la question des violences policières, enfin des meurtres sécuritaires à l'époque, parce que c'est pas juste des violences, mais des gens qui mouraient façon très très fréquente, vraiment un niveau de violence qu'on n'imagine même pas, je pense, aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, l'autre élément qu'on n'a pas cité, mais qui est extrêmement important, c'est l'émergence dans l'immigration de deuxième génération, comme on disait, d'un mouvement de revendication aussi, qui est Convergence 84. Et tout se passe au même moment. Tout se passe vraiment à la mi-temps des années 80 et qui va, contrairement à ça aussi, c'est à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui. Les gens pensaient que l'antifascisme, c'était antifascisseur de skin et que ça n'avait rien à voir avec toutes les autres luttes, alors qu'en réalité, pas du tout. Dès le départ, dans le scalp de Toulouse, je veux dire, c'est contre les tuniques bleues. Il y a déjà un discours sur la police qui est vraiment dès le départ. Et puis, pour l'anecdote, moi, j'étais au scalp à Paris, à réflexe à l'époque à Paris. On partageait notre local avec le comité contre la double peine. Donc, je veux dire, on était vraiment... C'était pas juste un discours de « Ah oui, il y a aussi les luttes de l'immigration », comme si on regardait ça de très loin.
Il y avait un mélange, ouais.
On était au plus près. Et moi-même, je raconte un peu ma vie, mais voilà. C'est que, par exemple, je me suis engagé sur la question de l'extrême droite, parce que moi, j'étais antifasciste, c'est ça qui m'intéressait. Et les premières actions militantes qu'on a faites, nous, c'était d'aller au procès des meurtres sécuritaires. C'est ça qu'on a fait en premier. Et pour nous, ça allait de soi. Enfin, on s'est pas dit, je voulais me taper avec les faf, je sais pas quoi. Pour nous, c'était évident que carrément. C'était la même chose.
Et pour raconter ma vie aussi, nous, on était sur les questions anticarcérales, et on était aussi dans ce lieu avec la double peine, avec réflexe, et il y avait vraiment des mélanges entre les différents collectifs qui nous enrichissaient les uns les autres en termes de nombre, évidemment. En termes de réflexion, d'apport théorique et pratique.
Et d'expérience militante. Ouais.
Le contact Nopasaran à Lyon, c'était Jalb, donc jeunes arabes de Lyon et de sa banlieue. Et au Pays Basque, à Bayonne, c'était Pacha, donc avec Nopasaran, donc qui étaient des jeunes à Berdalé, donc indépendantistes et de gauche, autonomistes et de gauche. Donc c'était vraiment très mélangé.
Très mélangé, ouais.
Après, il y a une spécificité quand même dans la lutte antifasciste qui était de s'intéresser, et là tu parlais de réflexe tout à l'heure, et des fois de s'intéresser vraiment à fond, à la question de l'extrême droite comme objet d'étude spécifique. Et en même temps, dans réflexe, dans la revue papier, si tu regardes la collection aujourd'hui, t'avais des enquêtes sur l'extrême droite, ça à chaque fois, et t'avais aussi à chaque fois des articles sur les outils de répression, sur les luttes de l'immigration, dans chaque numéro, voire d'autres thèmes, et de contre-culture aussi, des interviews, des choses.
Justement, pour poursuivre un petit peu ce qu'on était en train de dire sur les mouvements, comment ils s'interconnectaient avant, de réfléchir un peu au fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment des spécialisations, et puis que la théorie, l'enquête, elle est prise en charge par plutôt des universitaires et plus par des militants, ce qui était le cas avant. Et donc ça change beaucoup de choses, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on sait beaucoup de choses et qu'en même temps, on ne sait pas quoi en faire collectivement.
tu dis des universitaires, en fait, c'est surtout des journalistes qui le prennent en
charge. Oui, des ça peut être aussi des sociologues, des historiens, et puis qu'une partie des militants se sont professionnalisés, sont devenus des professionnels. Ils sont dans des assos, ils sont dans des médias dites alternatives ou différentes sur le web, et c'est eux qui font aujourd'hui le travail.
Bah, après, enfin, sur la question de l'extrême droite, il y a toujours eu les trois, en vrai. Il y a toujours eu un travail universitaire mené sur ce courant politique, bah, comme qui a étudié. Alors, selon les époques, il y avait plus ou moins de production. C'était plus ou moins intéressant quand t'étais un jeune thésard de prendre ce sujet ou pas. Sur la presse, c'est exactement pareil. Il y a eu des moments où c'était rentable, et puis il y a eu des moments où ça ne l'était plus, et du coup, les journalistes s'en sont désintéressés, et puis ils sont passés à autre chose. Et puis, il y a aussi, mais ça, c'est comme sur toutes les luttes, mais peut-être, je pense que quand même, dans l'antifascisme, cette question d'étudier vraiment de près l'objet de ce contre-quoi en lutte, ça fait partie vraiment de l'identité. C'est-à-dire, on sait que les antifas font du travail d'information. C'est quelque chose qui est su. Alors qu'en vrai, les militants des autres luttes le font aussi. Mais il y a moins, c'est moins dit, souvent. Alors que du côté des antifas, on sait, même c'est souvent une critique que nous, on a entendue. Vous faites vos petites fiches, vous faites vos machins.
Travail de flic.
Voilà,
ouais.
Travail de flic. Mais le fait est que c'est normal. Tu travailles sur un objet, il faut bien que tu connaisses ton objet. Et il y a en vrai une articulation entre le travail universitaire d'un côté, le travail journalistique de l'autre, et puis le travail militant, parce qu'en fait, chacun n'a pas forcément accès aux mêmes sources. C'est ça l'intérêt. Et ça, c'est vrai pareil sur, je pense, plein de luttes. Pour prendre un exemple simple, quand tu es un militant antifasciste, tu peux travailler sur le RN, mais tu ne seras jamais invité aux conférences de presse, il n'y a jamais un assistant parlementaire qui va t'appeler, il n'y a jamais une balance du mouvement qui va t'appeler toi. Ça sera toujours les journalistes, c'est rare, hein, en tout cas. Du coup, je parle pour les partis institutionnels, je ne parle pas pour les groupuscules. À l'inverse, souvent, les groupes militants étaient plus performants sur les groupes radicaux, parce que les journalistes, pour le coup, n'arrivaient pas à avoir accès à des informations que nous, on pouvait avoir. Et sur le plan universitaire, tu as l'accès à beaucoup d'archives. Tu as aussi la perspective historique, tu as aussi une méthode. Et tout ça fait que, quand ça s'articule, c'est bien. Là où il y a un problème, c'est quand ça se confond. C'est quand on croit que le travail universitaire, journalistique ou militant, c'est pareil. En fait, ça s'articule, mais ça a des choses très différentes. Et dans la période actuelle, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des médias, Street Press, Mediapart, Blast, et puis Libé aussi, qui essaie d'être dans la course, qui se sont un petit peu spécialisés, en tout cas qui se revendiquent comme des médias à la pointe de la lutte contre l'extrême droite et qui, de fait, produisent une production importante d'articles sur ce sujet. Parfois, c'est très intéressant et parfois, ça l'est moins, puisque le problème, c'est que il y a une concurrence aussi qui s'exerce, puisque c'est des entreprises qui sont en concurrence les unes avec les autres, qui ont des fonctionnements différents. Il y en a qui sont vraiment inféodés au capital, comme Libé, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus indépendants. Mais en vrai, dans leur projet, le but, c'est que les gens s'informent en priorité d'abord chez eux. Et donc, sur le sujet de l'extrême droite, là où c'est intéressant, mais que ça a redynamisé un petit peu le travail d'enquête journalistique dessus, ça c'est bien. Là où c'est embêtant, c'est qu'il faut produire de l'information. Et surtout dans le contexte d'aujourd'hui, qui est plus. C'est plus comme dans les années 80-90, il ne faut pas produire une enquête toutes les semaines. Il faut produire quelque chose chaque jour. Chaque jour, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et donc, on va aller chercher de l'info. Parfois, là où il n'y en a pas vraiment. Et donc, il y a par exemple, le meilleur exemple, c'est sur l'identification des groupes, d'extrême droite locaux, qui est un travail que nous, on a initié, on l'a fait en premier, on a fait une carte. Et puis ça, c'est un travail qui a été beaucoup repris par les Street Press et Libé ont chacun fait leurs cartes, qui sont des cartes beaucoup plus complètes que les nôtres, mais avec ce truc de, ils sont un peu tirés la bourre pour savoir qui allait en épingler le plus. Parce que forcément, si sur ta carte, tu as plus de groupes que sur la carte du voisin, c'est que tu as mieux travaillé. Ça veut juste dire que tu as mis sur ta carte des groupes qui n'ont peut-être pas d'activité réelle, qui sont juste une page Instagram. Mais toi, tu as réussi à la débusquer. Et si tu as réussi à montrer que tu en avais plus que les autres, c'est que tu as fait, c'est toi qui es le mieux informé. Et il n'y a pas d'objectif politique là-dedans. Parce que notre carte, pourquoi on l'a faite ? Pour permettre aux gens de savoir à quoi ils allaient être confrontés localement, mais concrètement. Si on voit qu'il y a un groupe, c'est une page Instagram, et c'est juste trois photos de gars qui sont pris, qui ont fait un selfie avec un drapeau français, bah, et qu'il n'y a pas d'activité sur le terrain, bah, c'est pas très intéressant forcément d'en parler. C'est bien de savoir que cette page existe, mais de là à la valoriser, de là à dire aussi... parfois elle est surreprésentée, à augmenter les chiffres, des choses comme ça, ou à maintenir sur des cartes des groupes qui n'existent plus depuis des fois plusieurs années. Ça, en tant que militant, c'est vraiment une erreur. Alors que d'un point de vue journalistique, on s'en fout. Mmh. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas hostile. Il y a des gens très bien à Street Press, des journalistes de qualité, qui sont réellement antifascistes, c'est-à-dire qui ont une conviction, des convictions, etc. Et c'est ça qui les anime, et c'est très bien. Mais... ça, c'est les individus, mais le projet, encore une fois, de ces médias, c'est un projet, c'est des entreprises commerciales. L'objectif du bout, c'est d'avoir une rentabilité financière.
Et puis peut-être aussi ce qu'elles ne font pas et qui est pourtant primordial, c'est que face aux attaques des groupes d'extrême droite, nazis, fachos, tout ce qu'on veut, il y a des résistances. Il y a des gens qui s'organisent, qui essayent de riposter, d'être là pour empêcher une vitrine d'être cassée, un meeting d'avoir lieu, etc. Et ça, par contre, ça ne vend pas du paplard et ça n'existe pas. Alors que c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que militants.
Et c'est la raison pour laquelle, nous, à la Horde, on fait ça, justement. C'est-à-dire que ce travail-là de rendre les résistances visibles, eh bien, on le fait. Alors, on le fait à notre échelle, c'est-à-dire avec les limites qui sont les nôtres. Évidemment, il n'y a pas toutes les formes de résistance sur nos îles. On s'est vraiment focalisé sur la question des résistances face à l'activité de l'extrême droite. Mais heureusement, oui, et puis il y a non seulement ça, et puis on le disait un peu hors antenne, aussi l'analyse, c'est-à-dire c'est bien de dire il y a tel groupe, ils font ci, ils font ça, mais c'est pas ça le travail après politique, c'est de dire bon bah, qu'est-ce que ça implique comme forme de résistance, ces activités-là, quel est leur projet vraiment concrètement, qu'est-ce que ça implique dans la vie politique locale, etc. Et ça, c'est pareil, c'est normal, ce n'est pas le travail des journalistes de faire ça, donc c'est normal qu'ils ne le fassent pas. Ce qui est gênant, c'est si les militants pensent qu'en déléguant le travail de l'information, on s'affranchit de ce travail d'analyse et qui est souvent mêlé à l'enquête. C'est-à-dire que quand nous, on s'intéresse à un sujet, si nous, on fait une enquête sur un groupe d'extrême droite, c'est pas pour faire les malins. C'est pas même pas pour juste informer. C'est vraiment dans la perspective d'une lutte spécifique.
Oui, c'est ça, comprendre pour combattre. Et c'était aussi ça qui était super intéressant dans la qualité des analyses qu'il pouvait y avoir dans les réseaux antifascistes des années que tu as mentionnées. Alors c'était vraiment la précision extrême de l'étude de ces groupes avec la recension quasi exhaustive des différents fanzines, ce qui permettait justement aux militants de comprendre à quoi ils avaient affaire. Parce que c'est pas la même chose d'avoir affaire à des catholiques traditionnalistes, à des nationalistes révolutionnaires, à des néo-nazis, ça va pas être le même rapport à la violence, ça n'avait pas le même rapport au discours, etc., ou à l'intervention, ou au champ d'intervention. Quand dans ta ville, tu as un groupe traditionnaliste très actif, tu sais où tu vas pouvoir les rencontrer ou les combattre, ou alors les liens qu'il peut y avoir avec la scène politique locale. Et là, le fait, bon, tu l'as dit, hein, le travail des journalistes, il est très intéressant, correct, mais il sert de médiation, et même parfois, il dessert parce qu'il va créer des figures, il va créer des chambres d'écho qui vont parfois nous desservir.
Non, mais et puis pour aller dans le même sens de ce que tu disais, c'est-à-dire pour approfondir sur cette question de comprendre pour combattre, il me semble justement que ce qui est intéressant avec l'analyse, c'est qu'après avoir pris une question, oui, spécifique pour pouvoir l'étudier convenablement et en tirer des conclusions, voir comment est-ce que justement ces luttes antifascistes, elles s'articulent toutes ensemble dans le même espace pour potentiellement combattre un pouvoir en place en réalité. Et c'est peut-être aussi des fois ça qui va manquer à une analyse abstraite, au sens universitaire, ou à une enquête spécifique au sens journalistique et dont les militants ne peuvent pas
saisir. Alors, par rapport au thème qu'on était en train d'aborder, c'est-à-dire la professionnalisation quelque part du militantisme, Hein. Mais on le voit dans l'ensemble des associations, hein, qu'elles soient antiracistes, qu'elles soient peu importe. Tout est professionnalisé. Et donc, du coup, les militants, ils ont souvent peu de temps, ils ont donc moins de temps en tous les cas. On est de moins en moins nombreux aussi. Donc, du coup, les tâches, elles sont incommensurables pour peu de personnes. Voilà, militer aujourd'hui, on a l'impression que si on n'est pas payé, on va peut-être à la piscine à la place d'aller à la réu, quoi.
Il y a autre chose aussi sur la question de l'information. C'est, nous, il y a vraiment une évolution, par exemple, au sein de la Horde, parce qu'il y a vraiment une accélération tellement folle. Tu vois, parce que contre-attaque, ils y arrivent, mais parce qu'ils se sont quand même professionnalisés dans le sens où c'est pas... Tu vois, nous, à la Horde, tout le monde travaille. Il n'y a personne qui est à 100% sur le,
ouais,
sur le
payé
truc,
pour,
ou payé pour ça. Là, ils ont quand même un modèle contre-attaque, et sinon, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, donc très bien, parce que ça n'a aucune... Enfin, tu vois, ils gardent un ton très militant et tout ça. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, du coup, on a mené cette réflexion qui fait qu'aujourd'hui, on n'essaye plus de faire de l'info. Parce qu'on voit bien que de toute façon, le rythme, ça serait impossible. Donc on s'est dit, mais en fait, à quoi on sert ? C'est exactement. Et c'est là où je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça oblige le milieu militant à se reposer les questions sur c'est quoi justement, nous, notre rapport ? Et c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que nous, on peut prendre le temps. C'est ça que les journalistes, pour le coup, ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas prendre le temps. Eux, il faut que ça circule. Une fois qu'un sujet est traité, on passe au suivant. Alors que nous, rien ne nous presse. Et que justement, tu vois, clairement, sur l'affaire de Rank, par exemple, je pense que nous, on a joué notre partition correctement. C'est-à-dire qu'on a attendu 3 semaines d'essayer de nous-mêmes y comprendre quelque chose, de réfléchir collectivement, de prendre le temps de discuter tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a à en dire ? Qu'est-ce que ça nous inspire ? Et du coup, on a écrit un texte où on ne parle pas beaucoup de l'affaire parce que toute l'information est déjà sortie, mais on ne revient même pas dessus. Mais on pose un regard militant dessus, sur la question de la violence en particulier et de la façon dont elle est traitée dans les médias et dans le monde politique, sur la question de la criminalisation de l'antifascisme. Tout ça, c'est des choses que tu ne vas pas lire dans les journaux. Ils ne prennent pas le temps d'y réfléchir. Et puis, de toute façon, ce n'est pas leur objet. Alors que nous, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que l'intérêt justement aujourd'hui dans le militantisme, c'est de qu'on a encore quand même des espaces de discussion, qu'on a encore ces pratiques-là de réflexion, et surtout on a un point de vue. C'est ça surtout le truc, et que c'est ce point de vue-là qu'il faut qu'on mette en avant et qu'on affirme aujourd'hui, et d'autant plus fort qu'il n'y a plus d'évidence antifasciste. C'est-à-dire que l'antifascisme, c'est vraiment devenu une lutte à défendre, et donc à un moment donné, tu peux pas te contenter de dire tu peux même pas te contenter de dire aujourd'hui vous voyez Quentin Durand, c'est un facho, et point barre, et genre c'est bon, tout est dit. En fait, rien n'est dit. Il faut partir de là pour réaffirmer un certain nombre de choses sur pourquoi c'est un problème, pourquoi ça change les choses, pourquoi tout ne se vaut pas, pourquoi le mot violence dépolitisé n'a pas de sens, etc. Enfin, pourquoi on peut pas le dépolitiser en tout cas totalement comme c'est fait, et tout ça, c'est aux militantes et aux militants de le faire, ça c'est sûr.
Il y a quand même plusieurs écoles, t'en parlais tout à l'heure, il y avait Ralph Hron d'un côté, et puis après les luttes antifascistes plutôt autonomes, radicales. C'est quoi la différence ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se battre et se dire antifasciste sans être anticapitaliste ?
Mais ça n'a jamais été possible, réellement, puisque là où il y a une fracture qui peut se faire, enfin il y en a plusieurs en vrai. La première, c'est que, et c'est vraiment lié à l'analyse qu'on a de l'extrême droite. Nous, ce qui est la spécificité de l'extrême droite dans son projet politique, c'est de dire que l'inégalité est une bonne chose. C'est ça, le fond du fond, c'est de dire, c'est pas simplement de défendre les inégalités ou de proposer un projet qui est inégalitaire dans les faits, c'est de dire que cette inégalité, non seulement on la constate, et c'est pas juste on l'accompagne, comme c'est un peu le cas dans le monde, dans la société actuelle, on l'accompagne, on l'encourage. C'est vraiment, on l'encourage parce qu'il y a eu à un moment donné, je veux dire, ils identifient très clairement le point de bascule, c'est l'apparition de l'égalitarisme. qui est finalement assez récent. Pour eux, ils le disent, c'est les Lumières, c'est la Révolution française, et que avant, cette question de l'égalité, on ne la posait pas. C'est ce qu'ils prétendent. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est pas vrai du tout. Mais c'est, eux, ils disent ça. Il y a eu l'âge d'or, c'est avant que tout. Quand est-ce que tout fout le camp ? Tout fout le camp à partir du moment où l'égalité est une revendication. Et là, eux, leur projet, et depuis qu'ils émergent, qu'ils ont émergé politiquement, c'est vraiment de pouvoir faire à nouveau accepter ou le retour à une société dans laquelle les inégalités à tous les niveaux, dans la sphère privée, dans les relations de genre, au sein d'une famille, dans les relations économiques, dans les relations sociales, entre groupes ethniques, etc., que l'inégalité et la hiérarchisation soient réaffirmées. C'est ça, hein, remettre le monde à l'endroit, redonner la parole au peuple réel, enfin tout leur discours, c'est en fait derrière le racisme, tout ça, c'est de dire il faut à nouveau que dominants et dominés soient bien identifiés dans la société, que chacun appartient à des groupes bien définis et qu'il faut réorganiser la société autour de ça. Donc c'est un sacré projet quand même. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à faire puisque la société est déjà tellement inégalitaire, etc. Mais ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est notre point de vue de défenseur d'un projet égalitaire. On a l'impression qu'on n'en est jamais, on n'en a jamais été aussi loin. Mais dites-vous que si vous aviez le projet exactement inverse d'une société qui serait vraiment purement inégalitaire, vous auriez aussi l'impression d'être de plus en plus loin. Vous voyez de plus en plus d'immigrés qui arrivent, il y a la confusion des genres, maintenant le fils de ma voisine, il fait sa transition, etc. Toutes ces paniques morales, alors bien sûr, elles sont un peu exagérées, orchestrées politiquement, mais elles sont aussi réelles dans le peuple de droite et d'extrême droite. Et donc, il y a pour eux quelque chose à défendre. Il y a vraiment, et même, il y a une forme de départ dans. Ça aussi, c'est un truc très important dans l'extrême droite. Il y a une forme un peu de millénarisme ou de truc que de toute façon, on va vers l'abîme, que de toute façon, tout est décadence. Foutu, que c'est la décadence et qu'en fait, on va juste essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Voilà. C'est ça le truc. Et ils appuient ça sur pourquoi ils disent que l'inégalité, c'est bien. Parce que Dieu l'a voulu, la nature l'a voulu, le bon sens le défend, et que tous les gens qui vont à l'encontre de ça, ils marchent sur la tête. Ils sont aveuglés par leur idéologie gauchiste, égalitariste, etc. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Ça, c'est important parce que si tu ne comprends pas que c'est juste. C'est ni bien ni mal, en fait.
C'est deux projets différents.
Qui sont antagonistes. Ouais. Et on ne peut pas dire. Nous, on dit qu'il y en a un qui est bien, un qui n'est pas bien, mais quelqu'un peut dire l'inverse. Voilà, il faut accepter ça. Et donc, c'est vraiment l'antifascisme politique, de partir de là. Et donc, si à un moment donné. Tu combats l'extrême droite parce qu'elle a un projet viscéralement inégalitaire. À quel moment tu peux faire l'impasse sur le capitalisme qui est l'inégalité, tu vois, en acte. Je veux dire, c'est le principe même d'organiser les relations, rapports économiques et sociaux sur la base de l'inégalité. Mais là où il y a une différence quand même un petit peu subtile, c'est que dans le système capitaliste, on te fait croire qu'un pauvre peut devenir riche, par exemple. Et d'ailleurs, ça arrive. Ou qu'un riche devienne pauvre. Et d'ailleurs, ça arrive. Alors qu'à l'extrême droite, un homme ne doit pas devenir une femme. Enfin, ne peut pas devenir une femme. C'est impossible. Un étranger restera toujours un étranger. Et s'il devient français, c'est un étranger de papier. Enfin, c'est un français de papier. Et donc, pour eux, c'est étanche. Alors que dans le capitalisme, enfin, on peut réimaginer un projet capitaliste dans lequel ça serait totalement étanche. Dans les faits, ça l'est. Mais en théorie, ça ne l'est pas. Et c'est là où il y a un rapport à l'inégalité qui est un petit peu différent. Mais évidemment, l'extrême droite s'accommode très bien du capitalisme, et beaucoup mieux du capitalisme que de toute autre forme d'organisation économique et sociale. Mais en même temps, au sein de l'extrême droite, tu as des projets anticapitalistes. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes essayé, tu vois, autour de des corporations, des choses comme ça, du solidarisme. C'était des formes différentes d'organisations économiques qui ne sont pas égalitaires, mais qui ne sont pas non plus sur la base de l'accumulation du capital. Donc, tu vois, en fait, tu peux être d'extrême droite et anticapitaliste. Il se trouve que c'est extrêmement rare parce que ce n'est pas pratique, ça complique les choses, alors que c'est tellement plus simple de défendre les deux en même temps. Et pour le coup, dans l'antifascisme, là, il n'y a pas t'as pas d'exception. Tu peux pas, enfin, ce n'est pas cohérent de défendre l'inégalité d'un côté et de l'attaquer de l'autre. Si tu veux, c'est sur tous les fronts. Sinon, tu n'as pas de principe. Tu vois. Et voilà, c'est là où, quand on nous pose la question, tu as un antifascisme qui ne serait pas anticapitaliste. Alors, Ça, c'est notre point de vue à nous. Après, si ton antifascisme politique, il repose sur le fait que le fascisme, sa seule définition, c'est le contraire de la démocratie. Et donc, le danger principal de l'extrême droite, et pas seulement dans son projet inégalitaire, mais surtout dans le fait qu'il veut abattre le modèle démocratique, la société démocratique dans laquelle on vit. Et dans ces cas-là, tu peux très bien être antifasciste, comme c'est toute la classe politicienne, quand elle l'était à l'époque, même si c'était que des discours de surface, de dire « il y a un danger vital pour la démocratie, c'est l'extrême droite ». Mais nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit « il y a un danger vital pour les projets égalitaires, c'est l'extrême droite ». Et que dans ce cadre-là, toutes les luttes d'émancipation, toutes les luttes de solidarité, elles sont menacées par beaucoup de choses, hein. Par le capitalisme en premier lieu, par exemple, mais entre autres, parmi tous les dangers qui nous menacent et qui menacent nos luttes, il y a l'extrême droite. C'est un danger parmi les autres. Il se trouve qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un danger plutôt... Et même, par exemple, il y a eu vraiment un creux dans les années 2000, où on a dit, bon, l'extrême droite, comme le RN avait l'air au fond du trou, on avait l'impression que c'était la fin. Jean-Marie, il allait caner, et il n'y avait personne pour lui succéder. Il y avait une dissolution de tous les groupes radicaux. Donc, dans les milieux militants, on s'est dit, ah putain, ça y est, enfin, y a plus de... c'est fini l'extrême droite, on va enfin pouvoir passer à autre chose et faire des choses plus intéressantes. Et c'est vrai que c'était tentant. Et d'un côté, bah, les antifascistes un petit peu pointilleux dont nous étions, on a dit bah non, il faut toujours garder un œil sur la bête parce qu'on n'en sera jamais débarrassé. Et je pense que Marine Le Pen en particulier a beaucoup profité, et les identitaires aussi, du fait que le discours antifasciste n'a pas été réinventé. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est rendu compte que bah non, en fait, le FN, c'était pas fini, qu'il y avait la fille qui allait reprendre et que ça allait même être pire parce qu'ils se normalisaient, enfin, ils changeaient d'image. Les identitaires, pareil, ils ont bousculé les codes. Qu'est-ce qu'ils ont fait au moment où l'antifascisme a voulu renaître? On a repris nos vieux discours, nos vieux schémas, nos vieux slogans de 10 ans avant, tu vois. Au lieu de se dire, bon, on est face à quelque chose d'un petit peu différent, il faudrait peut-être que nous aussi, on réinvente en face de l'antifascisme 2.0. Et en fait, cette prise de conscience collective, parce que c'est pas aux antifascistes de porter ça, tu vois, c'est vraiment tout le milieu qui
aspire à une société différente.
Exactement, ouais. Et qui doit voir ce danger-là. Après, là où les antifascistes ont une responsabilité, c'était à nous d'alerter. Mais franchement, franchement, on a essayé de le faire, mais les gens ne voulaient pas nous en entendre parler. Je veux dire, le congrès le congrès de Tours, où Marine Le Pen a été élue présidente, et donc était un moment, mais aujourd'hui on s'en rend compte à quel point c'était un moment historique et important dans l'histoire de l'extrême droite institutionnelle. Il y avait 3000 personnes dans la rue à Tours. C'est-à-dire vraiment une manif. On n'était pas fiers, quoi, tu vois.
Et oui, on n'était vraiment pas nombreux à Tours à ce moment-là, alors qu'il y avait vraiment la passation de pouvoir et l'installation d'une autre chose, d'une mutation, mais avec des bases quand même encore solides, à savoir que le FN, Front National, Rassemblement National, était aussi, et peut-être surtout, une PME familiale, hein, et une entreprise politique qui permettait à ses propriétaires, hein, en l'occurrence la famille Le Pen, et ses affidés, famille élargie, d'entretenir à la fois un train de vie, un mode de vie et une existence politico-médiatique très très intéressante, en tous les cas beaucoup plus intéressante que d'aller à l'usine. Alors, la première partie de cette discussion, elle pose quelques trucs, et comme je vous l'ai dit en introduction, malheureusement, le temps et évidemment le fait de pas vouloir accumuler les références nous empêche d'aller dans le fond des choses, mais c'est pour ça qu'on se permet de rajouter quelques trucs derrière, même si le pauvre camarade n'est pas là pour se défendre ou pour préciser, mais voilà, on va faire tout bien, toute amitié. Alors, premier truc intéressant, c'est que finalement, il se refuse, enfin, il s'économise le fait de définir le fascisme en replaçant la lutte du collectif La Horde contre l'extrême droite, en étant, en se considérant comme une boîte à outils et en évitant justement le fantasme d'une fascisation ou d'un fascisme à tous les coins de rue qui ferait que on sauterait en l'air en désignant l'adversaire politique en le traitant de fasciste et donc d'être obligé de le combattre ou de s'y attaquer. Alors c'est à la fois intéressant mais c'est aussi un écueil parce que quelque part on va dire les résidus d'extrême droite de collaboration de fascistes, ils ont toujours été là, mutatis mutandis, ils changent de couleur, ils changent de thématique, hein. On l'a dit, c'est pas la même chose d'être catholique traditionnaliste que d'être nationaliste révolutionnaire ou identitaire ou ethno-défenseur, enfin on va pas faire un cours magistral sur les différentes extrêmes droites, mais ils s'économisent et ils... En tous les cas, il omet, parce qu'il n'a pas le temps, un, le durcissement de l'autoritarisme de l'État, et deux, la mutation, justement, d'une certaine partie du camp progressiste, du camp social, du camp du mouvement social, en gros, la gauche, pour comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, même si ça ne nous fait pas plaisir, il faut le constater, il a été un temps, au cours du XXe siècle, où une partie de la représentation politique était issue du mouvement social, qu'on le veuille ou non. Hein, rappelons-le ici, je regarde sous le contrôle de mes camarades plus expérimentés, c'est la formule politesse qu'on dit pour vieux. L'EPS avait, dans ses militants, des gens qui étaient issus du mouvement ouvrier.
C'est
du
vrai.
Syndicalisme, etc. On peut même dire qu'une partie de l'architecture de l'État mitterrandien et de l'État socialiste au cours de la présidence Mitterrand est directement issue de la CFDT et va remplir les cadres et va faire la fonction de la construction de l'État socialiste et mitterrandiste. Et ce qu'on voit dans les années 90, c'est une profonde transformation de cette force qu'on appelait à l'époque social-démocrate. La social-démocratie est un courant du mouvement ouvrier dont l'objectif est, vous allez rire, de parvenir au socialisme, donc à l'abolition du capitalisme, par la voie électorale et par la gradation progressive de réformes. C'est une forme qui a été définie à la fin du 19e siècle par un socialiste allemand qui s'appelait Edouard Bernstein, qui, constatant que la classe ouvrière était en expansion, affirmait que c'est pas la peine de prendre des risques, aller faire des barricades dans la rue ou aller en tôle ou voire même à risquer la mort, etc. Mathématiquement, on y arrivera puisque on devient le plus nombreux, donc autant jouer la carte électorale. Ça sera peut-être un peu plus long, mais en tous les cas, on risquera moins notre peau. Donc, il y a rien de social-démocrate dans ce qu'on a aujourd'hui dans les étiquettes là qu'on nous appelle. Et alors, cette transformation de ces organes-là, elle provient de deux pôles. Hein, le premier, c'est la social-démocratie allemande, donc la social-démocratie historique, à savoir Schröder, qui va vraiment participer à ça. Et de l'autre côté, la social-démocratie anglaise, de vecteur plus trade unioniste, donc plus syndical, plus... plus syndicaliste, qu'on va appeler la troisième voie avec Tony Blair. Ce sont vraiment les deux pôles qui vont accompagner... Cette transformation par le prétexte du progressisme social vers quelque chose de différent. Et pour nous, en France, c'est Jospin et le PS, pour ceux qui l'auraient oublié et qui chantent les louanges aujourd'hui de la gauche plurielle, avec ce fameux, on en a parlé aussi aujourd'hui ici, congrès de Villepinte en 1997. À l'époque, il y a deux éléments hyper importants dedans. Alors le premier, c'est l'émergence de Valls, hein, de Sinistre Mémoire, qui va commencer déjà à arriver ici. C'est également Jean-Pierre Chevènement avec ses Sauvageons, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Et c'est surtout, en fait, l'affirmation que la première des libertés, c'est la sécurité. Et la focale sur cette notion d'insécurité qui va permettre d'ouvrir les vannes de la question à la fois de l'immigration en la liant à la sécurité, etc., etc., et donc d'assécher toute critique sociale, toute critique de l'organisation de la société, toute critique de l'organisation du travail et de la répartition des richesses et de l'inégalité. Et ça, quelque part, c'est intéressant dans ce que dit le camarade quand il parle de la question de l'égalité, mais on va pas jusqu'au bout. On va pas jusqu'au bout parce qu'on peut pas, on peut pas le faire. Mais voilà, on n'a pas le temps de le faire, mais nous, on va le faire parce qu'on a un peu plus de temps dans les minutes qui nous restent. Il faut toujours dire fondamentalement que le capitalisme, c'est l'organisation de la pénurie. C'est de dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, le dit. C'est l'organisation de la pénurie, ça veut dire qu'on peut pas donner. Mais il faut aller jusqu'au bout du problème. Critiquer l'organisation et la gestion de la pénurie par le capitalisme, c'est aussi et surtout questionner la question de l'utilité pratique et de l'utilité sociale du travail et de la production. C'est-à-dire de quoi on a besoin et qui, justement, va remplir ces besoins. Et à partir de ce moment-là, eh ben, tu bascules forcément dans la question de l'organisation de la société, de savoir pourquoi certains ont énormément et à quoi ça sert de produire tel truc. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'avoir 50 paires de pompes dans une vie ? Ou est-ce qu'on pourrait en avoir moins, mais qui dure plus longtemps, avec moins de couleurs ou peut-être moins de marques ? Mais par contre, on serait tous très heureux d'avoir des bus qui partent toutes les minutes, confortables, non polluants, et surtout qu'ils soient gratuits. Ça nous permettrait d'éviter d'avoir notre bagnole et de stresser et de flipper quand on a un prix du carburant qui monte à 2,5 voire 3 euros bientôt, et de pas savoir comment on va faire pour choisir si on doit bouffer, donner à bouffer aux gosses, ou mettre de l'essence pour pouvoir aller bosser avec en plus un chef qui est un gros con. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit aller jusqu'au bout. Et puis la seconde chose, c'est la question des institutions. Effectivement, de voir qu'à partir du moment où le FNRN s'est institutionnalisé, bon, bah alors les marges, elles redeviennent à des pratiques politiques qui sont des pratiques anti-institutionnelles ou pas institutionnelles, à savoir l'occupation de la rue, la violence, les activismes violents, etc., etc. C'est normal puisqu'il y a une institutionnalisation de la base, de la sphère, de la maison mère. Mais quelque part, il va y avoir une contamination de ces institutionnalisations par les thématiques du Rassemblement National. En cela, aidé par, on l'a dit, les divers groupes, et qu'aujourd'hui, l'autoritarisme, il est dans le cœur de l'État. C'est l'État qui génère lui-même son propre autoritarisme. Pardon. Il n'a pas besoin d'avoir de vecteur soit aiguillonnant, soit, on va dire, aggravant. On l'a dit, est-ce que c'est plus fasciste d'avoir des bandes de crétins bourgeois, dégénérés, consanguins, de familles nobles qui se pensent être les nouveaux Jeanne d'Arc du 21e siècle, ou est-ce que c'est plus fasciste d'avoir une police qui utilise depuis 4 ans un logiciel de reconnaissance faciale en dehors de tout cadre légal de ce fameux état de droit qui serait normalement la garantie absolue pour nous pauvres citoyens, de dire « Ok, on n'est pas heureux, mais il y a quand même des bornes qui sont franchies. » Et je vous rappelle que quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. C'est même la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Alors, quelques billes sont posées. Je suis un peu long, pardon. Du coup, je t'ai pas donné la parole. Mais je voyais que tu acquiesçais au fur et à mesure. Donc,
je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est qu'est-ce que c'est que le fascisme ? Il n'y a pas de définition qui est donnée. C'est quand même un peu embêtant. Ensuite, moi, je pense que l'État est porteur de tout autoritarisme et de tout fascisme que les gens vivent quotidiennement. Je vais dire, bon, la police, c'est pas des fascistes, hein, c'est la police républicaine. C'est-à-dire que, finalement, l'antifascisme n'est pas du tout anti-républicain. C'est moins qu'on puisse dire. Et ça va se voir à chaque élection, d'ailleurs. À chaque fois qu'il va y avoir une élection où il y aura un danger que le Front National, maintenant le RN, prenne le pouvoir, ces gens-là, antifascistes, vont demander à voter pour la démocratie, voter donc pour la gauche ou pour la droite d'ailleurs. Hein. On aura certainement le cas en 2027, on aura l'occasion de voir ce qui va se passer. Mais voilà, moi ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'analyse vraiment de ce que c'est que le fascisme, alors que c'est l'État qui... qu'on disait, il y a des choses qui sont terribles. Hein. C'est-à-dire que tu t'aperçois que c'est l'État qui applique les trucs et qui ont été dans les programmes du Front National avant. C'est l'État qui l'applique. Bon.
Alors, on garde ça pour la semaine prochaine. On travaille et puis, on aura l'occasion d'y revenir avec la suite de l'entretien.
Quelle belle blague ! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron ?
Protéger le climat et pas le capital ! Protéger le climat et pas le capital ! Protéger le climat et pas le capital ! Protéger le climat ! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Run them jewels fast, run them jewels fast, run them, fuck the slow-mo.
Napaga!